enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissance.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Voici ma Bible. C'est la parole inspirée de Dieu. Et je suis tout ce qu'elle dit que je suis. Je possède tout ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire tout ce qu'elle dit que je peux faire. Je vais maintenant recevoir la semence incorruptible de la parole de Dieu. Et je serai jamais plus pareil. Et je serai toujours et pour éternité changé, transformé de gloire en gloire dans l'image de Jésus. C'est une bonne chose à dire, n'est-ce pas? Alléluia. Donc, ce matin, nous allons continuer notre série « Comment connaître le seul vrai Dieu? » Dieu, qui es-tu? Comme j'ai expliqué il y a 6 semaines, une chose qui a inspiré le titre de ce message, c'était un chant que j'ai par chance entendu à la radio de Boom Desjardins. Il, dans le fond, criait dans son cœur, « Dieu, où es-tu? Peux-tu m'écouter un peu? » Et je vois que vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de personnes dans notre société qui se posent la question, « Dieu, où es-tu? J'ai entendu que tu existes, que tu es bon, mais si tu es bon, si tu existes, pourquoi est-ce qu'il y a tant de misère dans le monde? Pourquoi est-ce qu'il y a tant de problèmes? Pourquoi est-ce qu'il y a tant de souffrances? Est-ce que vous savez de quoi je parle? » Donc, il y a beaucoup de personnes qui mettent en question l'existence de Dieu. Ou, pire, ils croient que Dieu existe, mais ils ont l'idée que Dieu est un Dieu qui est méchant. C'est un gars avec un barbe longue de même, avec un bâton dans la main, prêt à nous frapper à chaque fois qu'on ne fait pas quelque chose de correct. Mais vraiment, le but de la série que nous faisons, nous voulons étudier et voir, sonder les Écritures et aussi regarder la nature et regarder tout ce que Dieu a créé pour découvrir qui Dieu est pour vrai. Et quand on fait cela, je vous garantis, on va toujours découvrir la même chose, c'est que Dieu est bon. Tout le monde dit Dieu est bon. On l'a chanté ce matin, n'est-ce pas? Dieu est bon en tout temps. Et c'est vrai, c'est vrai. Donc on a vu beaucoup de choses. Mais on a parlé aussi des noms de Dieu. On a vu qu'il est Yahweh ou Jéhovah, qui cela veut dire le grand Je suis aussi. Dieu n'était pas, et c'est pas juste un Dieu qui va être, mais Dieu est bon. Il est le grand Je suis. On a vu que Je suis l'Éternel qui te guérit, par exemple. Et aujourd'hui, on va voir un autre aspect de son caractère. Qui est Dieu? Et ça va vous réjouir le cœur. Vous allez voir que Dieu est bon et que Dieu est un Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Ça, c'est vraiment notre sujet aujourd'hui. C'est que Dieu est un Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a des besoins? On a tous des besoins, n'est-ce pas? Des fois, on a besoin d'une journée de congé. Des fois, on a besoin des finances pour payer les factures, pour acheter la nourriture. On a besoin de la santé. On a besoin de la paix. Mais on a, dans le fond, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de Jésus. Et ce que nous allons voir, c'est qu'en Jésus, on peut avoir tous ces besoins peuvent être comblés en lui. En fait, on a souvent parlé du verset de la parole qui dit que voici la vie éternelle. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et Jésus-Christ. Donc, si on connaît le seul vrai Dieu, si on connaît Jésus, toutes les autres choses vont tomber en place au fur et à mesure. Mais qu'est-ce qu'on sait? C'est que la Bible dit aussi que mon peuple périsse faute de connaissances. Il y a beaucoup de personnes parce qu'ils ne connaissent pas Dieu, ils sont dans la misère. Il y a beaucoup de personnes parce qu'ils n'ont pas su qu'est-ce que la Bible dit, qu'ils passent à côté de plusieurs bénédictions que Dieu a promis dans la parole de Dieu. Donc, on sait qu'aujourd'hui, on vit dans un monde qui est infecté par le péché et il y a des problèmes en masse. Est-ce que vous êtes d'accord? S'il y a une chose qui ne manque pas dans le monde, c'est les problèmes. S'il y a une chose qui ne manque pas, c'est les besoins. Et quand on parle des besoins, il y a un domaine où surtout les personnes, même ici au Québec et partout dans le monde, ils vont penser tout de suite. Quand on demande, est-ce que vous avez des besoins? Souvent, les pensées vont aller dans la direction d'une provision au niveau de leur finance, ou au niveau de leur capacité de faire vivre leur famille, d'acheter de la nourriture, d'avoir un toit sur la, au-dessus de la tête, etc. Est-ce que vous êtes d'accord? Et c'est pour une bonne raison, parce que regardons, moi je veux juste vous montrer quelques statistiques que nous avons découvert et nous voyons. Les statistiques sur le fléau de la pauvreté. C'est un problème, et la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que Jésus est venu pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, n'est-ce pas? Regardons quelques-uns de ces statistiques. Près de la moitié de la population mondiale vit avec moins de 2 $ par jour. C'est pas gros, vous êtes d'accord? Plus de la moitié. Regardons. 1,2 milliard de personnes vivent dans la pauvreté extrême. Là, on parle extrême. Parce qu'il y a différents niveaux de pauvreté, n'est-ce pas? Tous les jours, 50 000 personnes meurent de causes reliées à la pauvreté. Ça, c'est énorme, n'est-ce pas? Regardons. Toutes les 3 secondes, 1, 2, 3, un enfant meurt de causes reliées à la pauvreté. C'est sérieux, n'est-ce pas? Regarde bien. Encore, on continue. Tous les soirs, 800 millions de personnes se couchent en ayant faim. Et qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? C'est que, parce que encore, les gens vont dire, mais Dieu, où es-tu? Si tu es vraiment là, comment est-ce que tu peux laisser ces choses passer? Et nous allons voir aujourd'hui, c'est pas qu'est-ce que Dieu veut. C'est pas lui qui cause cela. C'est pas lui qui provoque cela. Et Dieu, en fait, a fait des choses pour régler les problèmes. Et on peut coopérer avec lui. Puis, 880 millions de personnes n'ont pas accès aux soins de santé élémentaires. C'est quelque chose. Et là, on peut penser tout de suite au tiers monde. On pense à tous les problèmes en Haïti ou dans les autres pays où on sait que c'est vraiment la pauvreté extrême. Et même, laisse-moi vous dire que la personne la plus pauvre au Canada, comparée à plusieurs de ces personnes, c'est considéré comme riche. Mais même là, est-ce que c'est acceptable? Est-ce qu'on va juste dire, bon, c'est correct, on se contente, parce que même dans notre belle province, regardons bien, quelques 11,9% des Québécois, environ 890 000 personnes, n'ont pas l'argent nécessaire pour se nourrir, se loger et se vêtir. Et j'ai écouté cela juste l'autre jour, il y avait une autre émission à TVQ et il parlait de cela. Et qu'une personne sur 7 dans la province du Québec, une personne sur 7 vit sous le seuil de la pauvreté dans cette province. C'est-à-dire que n'importe où qu'on aille, il y a toujours des personnes qui sont dans le besoin. Et c'est peut-être pas la pauvreté extrême, comme nous voyons en Haïti, mais c'est quand même pas ce que Dieu veut pour eux. Dieu veut quelque chose de mieux. Est-ce que vous êtes d'accord? Que Dieu veut que tout le monde soit capable de se vêtir, de se nourrir, de se loger. Dieu veut! Et j'ai une bonne nouvelle. Jésus a dit, allez annoncer, prêcher la bonne nouvelle aux pauvres. C'est quoi la bonne nouvelle? La bonne nouvelle que Dieu veut. Et pensons à Jésus dans son ministère. Comment est-ce qu'il a fait du ministère aux pauvres? Quand il y avait des foules qui avaient faim, qui avaient besoin de manger, qu'est-ce qu'il a fait pour prononcer ou pour proclamer la bonne nouvelle? Est-ce qu'il a dit, désolé, je peux rien faire pour ton estomac, il va falloir que tu continues comme ça, mais j'ai une bonne nouvelle, que après un autre 70 ans, peut-être tu vas mourir, et si tu crois en moi, tu vas aller au ciel. Non, c'est pas ça que Jésus a fait. Jésus a pris un petit lunch d'un petit garçon, n'est-ce pas? En fait, c'est André qui l'a trouvé. Il a trouvé un gars qui avait quelques petits pains, quelques poissons. Et Dieu a pris qu'est-ce que le petit garçon lui a offert. Et Dieu a multiplié son lunch. Il a nourri les multitudes. Et après avoir nourri les multitudes, il restait 12 paniers de nourriture. Donc aujourd'hui, on a besoin de voir les choses dans les yeux de Dieu, avec et à travers les yeux de Dieu. Comment est-ce que Dieu voit la situation dans le monde? Comment est-ce que Dieu voit la pauvreté? Je suis convaincu que nous, les chrétiens, nous devrions faire davantage pour aider les pauvres et surtout pour aider les personnes dans les cas extrêmes. Vous êtes d'accord? Mais pour aider les autres, il faut qu'on soit capable de recevoir de l'aide aussi, n'est-ce pas? Si je veux aider une malade, je j'embarque pas dans le lit avec lui pour attraper la même maladie. Vous êtes d'accord? Si je veux soigner une malade, il faut que je sois en bonne santé. Et si l'Église va aider le monde, comme l'Église est supposée d'aider le monde, l'Église a besoin de comprendre que Dieu est un Dieu qui veut et qui peut et qui va pourvoir à tous nos besoins. Et il veut se servir de vous pour le faire. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Et aujourd'hui, je vais partager un récit de la parole de Dieu que nous connaissons. Si vous êtes chrétien depuis un certain temps, vous avez sûrement entendu cette histoire. Mais on va regarder dans la parole de Dieu, Genèse chapitre 22, verset 1. Et on va voir un homme que la Bible appelle le père de la foi, Abraham. Et Abraham a été mis à l'épreuve par Dieu une fois. Juste pour vous mettre dans le contexte, Dieu a promis à Abraham, quand il était vieux, et à son épouse qui était vieille, ils avaient déjà dépassé l'âge pour avoir des enfants, Dieu lui a fait une promesse qu'il donnerait un enfant à Sarah, que Sarah allait donner naissance, ok, à cet enfant, et que cet enfant serait vraiment la personne que Dieu allait utiliser pour amener ou pour former et fonder la nation juive et dans le fond pour faire venir dans le monde le Sauveur Jésus-Christ. C'était vraiment à travers cet enfant que Jésus allait naître. Donc c'était important qu'est-ce que Dieu voulait faire. Donc Dieu finalement, ça a pris 25 ans et pendant des années, Abraham et Sarah faisaient confiance à Dieu. Ils ont même appelé les choses qui ne sont pas comme ils étaient. Dieu a changé le nom d'Abraham à Abraham, qui veut dire le père d'une grande nation. Et pendant longtemps, Abraham se présentait aux gens, disant, « Salut, je suis le père d'une grande nation. » Ah oui, tu as combien d'enfants? J'en ai pas encore, mais il appelait les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Et puis finalement, après 25 ans, le bébé est né, Isaac. Isaac vient au monde. Et tu peux imaginer, Abraham est content, Sarah est contente. Et puis un jour, Dieu va mettre Abraham à l'épreuve. Et qu'est-ce qui se passe? Après ces choses, Dieu met Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham, il répondit, me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Moria. » Et là, souligne le mot « là ». Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva du bon matin, sella son âne, et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois, travaillait, hein, pour l'holocauste, et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusqu'à là, tu peux souligner encore le mot « là », pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Et alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père, » et il répondit, « Me voici mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois. » Mais où est l'agneau pour l'holocauste ou pour l'offrande? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Imagine-toi, hein, que tu es Isaac et tu te promènes avec ton père et dis, ben, on a tout ce qu'il faut pour faire le sacrifice, mais où est le sacrifice? Et puis, Abraham répond, Dieu lui-même pourvoira. Il se pourvoira lui-même. Soulignez le mot pourvoira. Et ils marchaient tous deux ensemble. Lorsqu'il peut arriver au lieu, tu peux souligner le mot « lieu » que Dieu lui avait dit. Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Tout de suite, je veux juste ouvrir une parenthèse. Il y a des gens qui disent, est-ce que Dieu est pour les sacrifices humains? Non, pas du tout. En fait, on va voir, il va vraiment souligner une fois pour toutes le contraire. Parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup des personnes, des païens autour d'Abraham, que ça c'était le mode, c'était comment ils faisaient. Ils offraient leurs enfants en sacrifice. Mais là, Dieu va montrer une fois pour toutes que non, c'est pas ça que je veux. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Alors, l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham! » Et il répondit, « Me voici! » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu, tu peux souligner le mot lieu, le nom Jéhovah Jireh. Tout le monde dit Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera quoi? Pourvu. Laisse-moi vous dire que l'agneau dans l'Ancien Testament représente Jésus. Et que quand Dieu le Père a pourvu un agneau, c'était juste symbolique aussi du fait que Dieu allait pourvoir son propre fils, Jésus, qui allait devenir le sacrifice pour le monde entier. Et qu'en Jésus, tous nos besoins, que ce soit physique, mental, émotionnel, financier, tous nos besoins sont rencontrés dans l'agneau. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Mais regarde bien. On voit que Jéhovah Jireh, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire littéralement, l'Éternel voit et il pourvoit. Je ne sais pas en ce qui vous concerne, mais je suis content de savoir que Dieu Tout-Puissant, il voit mes besoins. Il voit aussi mon cœur, il voit ma foi, il voit mon obéissance, il voit vos factures d'Hydro-Québec. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Il voit votre garde-manger. Il voit votre frigo. Il voit les bouches de vos enfants qui aimeraient avoir de quoi manger et croquer, n'est-ce pas? Il voit toutes ces choses, mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu n'est pas juste un Dieu qui voit. Dieu est un Dieu qui voit et qui pourvoit. Bonne nouvelle! Et il ne fait exception de personne. Il a fait pour Abraham, il veut le faire pour nous. Pourquoi? Plusieurs pensées ce matin, juste pour commencer. Il est un Dieu d'abondance. Donc, il faut connaître le seul vrai Dieu. Le seul vrai Dieu est un Dieu d'abondance. Laisse-moi vous dire qu'il n'est pas gratteux. Mon papa n'est pas gratteux. Il est un Dieu d'abondance. Il y a toujours assez pour tout le monde. Même qu'est-ce qu'on sait, c'est que malgré le fait qu'on a certaines régions dans le monde où les gens vivent dans la pauvreté extrême, nous savons, c'est quand même une réalité qu'il y a assez de ressources sur la planète pour nourrir tout le monde. C'est juste parce que pour X raisons, les ressources ne sont pas distribuées. Ou il y a d'autres choses, il y a souvent aussi, on va parler de ça tantôt, il y a des choses qui se passent dans l'esprit aussi, dans les gouvernements, dans les principautés, il y a des choses qui bloquent les bénédictions de Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas les bénir. Regardons bien, 1 Timothée 6, 17 dit, « Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines. » Laissez-moi vous dire, si vous vivez pour l'argent, vous allez avoir de la misère. La Bible dit que même l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Si vous aimez l'argent, vous êtes fait à l'os, comme ils disent. Hein? Ça ne marche pas, parce que les richesses sont incertaines. On peut être riche aujourd'hui et pauvre. Savez-vous quoi? La plupart des personnes qui gagnent l'auto, ils font faillite quelques années après. Ça, c'est un fait. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas comment gérer et leur cœur n'est pas en règle avec Dieu. Ils ne peuvent pas vraiment supporter ces richesses. Ils n'ont pas la bonne motivation pour gérer cela. Vous êtes d'accord? En plus, mon opinion, je vais fort là-dessus, que ce n'est pas vraiment un bon investissement non plus. Bon, je ne dis pas grand-chose parce que je ne peux pas marcher sur les orteils, mais ça, c'est entre vous et Dieu. Bon, mais regardons bien, mettre en Dieu, et qui nous donne, regarde bien, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec quoi? Et qu'est-ce qu'il nous donne avec abondance? Toutes choses. Pourquoi est-ce qu'il nous donne ces choses avec abondance? Pour que nous en jouissions. Savez-vous quoi? ton papa n'est pas contre l'idée que vous soyez béni. Il ne veut pas que vous soyez gratteux. Il ne veut pas que vous tombiez en amour avec l'argent. Il ne veut pas que vous ayez les idoles dans votre vie. Il aimerait mieux que vous ayez peu, mais quand même un cœur qui est droit avec lui, que beaucoup et avoir des distractions. Ça, c'est officiel. Mais savez-vous quoi? Que Dieu a créé ce monde, Dieu a créé la planète, et je vais jamais oublier la journée où je croquais, je mangeais une fraise, et c'était tellement juteuse, délicieuse, et sucrée. Et puis j'ai eu une révélation, wow, Dieu est bon. Il aurait pu faire une nourriture qui était amère et dégueulasse, mais on était obligé de le manger juste pour survivre. Mais non, il a donné les fruits merveilleux, la nourriture en abondance, n'est-ce pas? Dieu est bon et il nous donne ces choses pour qu'on puisse en jouir. Recommande-leur, recommande aux riches de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité. Savez-vous quoi? Dieu n'est pas contre l'idée que vous ayez des choses, mais il ne faut pas que les choses vous aient. Avez-vous suivi? Et quand Dieu vous donne quelque chose, Dieu a donné un fils à Abraham, mais Dieu ne voulait pas que le fils prenne la place de Dieu dans sa vie. Donc, il a voulu savoir, oui, je t'ai béni avec un fils, mais est-ce que tu es prêt à me redonner ton fils? Et quand Dieu veut nous bénir, il faut qu'on soit prêt à redonner à Dieu tout ce qu'il nous donne. Sinon, c'est un idole. Et on peut faire de nos enfants un idole. On peut faire de notre femme un idole. On peut faire de notre emploi, nos chars, nos affaires, les idoles. Mais Dieu ne veut pas que nous ayons les autres dieux. Il faut qu'il soit numéro un. Vous me suivez ce matin? Mais ça ne change pas le fait que Dieu veut vous bénir. Regarde bien, il veut nous délivrer de la malédiction de la pauvreté. Savez-vous quoi? Je sais que c'est délicat, mais la pauvreté n'est pas une bénédiction. La pauvreté est une malédiction. Jésus a dit qu'il faut prier que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, n'est-ce pas? Laisse-moi vous poser une question. Au ciel, les rues sont pavées en quoi? En or. Pensez-vous que les gens vont avoir faim au ciel? Pensez-vous que tous les besoins vont être rencontrés? Comparez ça avec qu'est-ce qu'on va voir dans une minute, mais regardons qu'est-ce que la parole de Dieu dit. Le prochain verset ici. En fait, il ne doit pas y avoir de pauvres parmi vous, car l'Éternel, votre Dieu, veut vous combler de bénédictions. Ça, c'est dans la Bible. Est-ce que ça, c'est une reproche? Non, 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 parce que la Bible dit plus tard que si quelqu'un tombe dans la pauvreté, que nous sommes dans l'obligation de l'aider. Amen. C'est pas une reproche, mais c'est quand même, c'est le cœur de notre papa, Jéhovah Jireh, qui dit, en fait, il ne doit pas y avoir de pauvres parmi vous, car l'Éternel, votre Dieu, veut vous combler de bénédictions dans le pays qu'il vous donne comme patrimoine foncier pour que vous en preniez possession. Donc ça, on voit le cœur de Dieu, n'est-ce pas? Et pour quelques-uns, ce matin, c'est peut-être une révélation, vous n'avez pas su, peut-être vous avez entendu que plus vous êtes pauvre, plus vous êtes pieuse, plus vous êtes proche de Dieu. Mais laisse-moi vous dire qu'être pauvre, ne pas avoir assez, c'est pas pieux, et c'est pas Dieu qui veut que ça soit comme ça. Et j'ai une bonne nouvelle à annoncer aujourd'hui, que Dieu veut pourvoir vos besoins. Et il va pourvoir vos besoins. Si on lui fait confiance, il peut, il veut, il va. Regarde quelqu'un dit, il veut, il peut, il va. Il veut nous délivrer de la malédiction. Encore, pensons, au ciel, les rues sont pavées, hein? Tous les besoins sont comblés et rencontrés. Comparez ça à ce qu'on voit dans la prochaine photo ici. Est-ce que ça a l'air de quelque chose qui, un peuple qui vit dans les bénédictions de Dieu? Non, mais pourtant, Dieu aime ces personnes, et Dieu a versé son sang pour ces personnes, et Dieu veut que tous ses enfants soient bien soignés et bien comblés dans la vie, n'est-ce pas? Est-ce que Dieu aime les enfants québécois plus qu'il aime les enfants d'Haïti? Ça, c'est en Haïti. J'ai choisi ça parce que je sais que, est-ce que Alain est là ce matin? Non, Alain, il vit en Haïti à la moitié de l'année. Donald Alice vient de faire un voyage missionnaire en Haïti. Mais savez-vous quoi? Moi, je crois, c'est mon opinion, mais c'est pas pour rien que la Haïti, c'est le pays le plus pauvre dans l'hémisphère occidental au monde. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons. Et on blâme pas les personnes, ils sont innocents. Mais en 1801, savez-vous qu'est-ce qui s'est passé quand les esclaves ont révolté pour avoir leur liberté? Ils ont sacrifié un cochon et ils ont dédié et dévoué l'île d'Haïti à Satan. C'est ça, ils se sont consacrés à Satan et regarde les résultats. Laisse-moi vous dire, je veux juste que vous sachiez, dis-moi pas que notre Père Jéhovah Jireh, il veut que les enfants vivent dans des conditions comme ça. C'est pas qu'est-ce qu'il veut. Et je pense que nous, en tant que chrétiens, on peut faire des choses pour les aider, n'est-ce pas? Je pense qu'on devrait partager de nos biens, de notre superflu. On devrait aider ces enfants, on devrait aider ces personnes. Et moi, j'ai de plus en plus à cœur de faire les choses comme ça. On soutient un missionnaire. À chaque mois, l'Église envoie une offrande au ministère de James Rackley qui fait un ministère extraordinaire au Mexique avec les enfants dans les villages qui ont besoin de nourriture, qui ont besoin. Savez-vous, à chaque fois que vous donnez la dîme, vous donnez aussi pour le Mexique, pour ses enfants. Et c'est des choses qu'on a besoin de continuer et faire encore plus, n'est-ce pas? Mais regarde bien, la malédiction amène la pauvreté. Il y a un verset qui dit ceci, bonne nouvelle, psaume 113:7. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands et avec les grands de son peuple. N'est-ce pas bon que Dieu retire de la poussière le pauvre? Il ne laisse pas le pauvre dans la misère. Il lui donne. En fait, la Bible dit ceci, celui qui donne aux pauvres, il prête à l'Éternel. Je pense que, mais savez-vous une autre chose? Si vous et moi, nous allons donner aux pauvres, il faut avoir de quoi donner. N'est-ce pas? Moi, je sais c'est quoi d'être dans le besoin. Je sais c'est quoi d'être obligé de recevoir de l'aide. Tanya et moi, même au début de notre mariage, à plusieurs reprises, on n'avait plus rien. Heureusement, quelqu'un arrive à la porte avec un poulet. Gloire à Dieu! On avait donné notre dernière scène, on ne savait pas qu'est-ce qu'on allait faire pour la semaine, mais le poulet arrive, gloire à Dieu. Dieu est bon, donc il faut être assez humble pour recevoir de l'aide. On a tous passé par là, à un moment donné, peut-être pas tous, mais moi j'ai passé par là, j'ai eu des moments. Mais moi aussi, je sais que c'est quoi d'être à l'autre côté où on peut donner et amener le poulet, c'est le fun aussi. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir même. Alléluia. Donc, troisième petite pensée, le désir de son cœur est de pourvoir à tous nos besoins. C'est dans le cœur de papa, Jéhovah Jireh, il veut pourvoir à tous nos besoins. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Vous devriez méditer ce verset. Bien entendu, il y a des conditions. Paul a dit ça. Un groupe de chrétiens qui venaient de soutenir son ministère missionnaire. Et parce qu'ils ont donné à plusieurs reprises les offrandes pour soutenir son œuvre, Dieu dit, maintenant, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse avec gloire. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Je lis la Bible ce matin. Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire tous vos besoins, vous ayez encore en quoi? En abondance pour toute bonne œuvre. Laisse-moi vous dire, on est tous en route. On a tous du route à faire dans cette histoire de recevoir nos besoins et d'être comblés afin de pouvoir aider les autres. Mais même si vous êtes dans une position aujourd'hui, vous dites, mais moi, je ne peux rien donner. Ce n'est pas vrai, vous pouvez donner quelque chose. Commencez là où vous êtes. Donnez un peu d'attention, si pas autre chose. Donnez une prière. Donnez du temps. Donnez quelque chose. Commencez à donner de votre superflu et Dieu va continuer à vous combler pour que vous puissiez donner davantage. Ça, c'est comme ça que Dieu veut qu'on vive, n'est-ce pas? Regarde bien. Je vais dire quelque chose que pour quelques personnes, ils n'ont jamais entendu ça. 2 Corinthiens 9, 11, je ne vais pas le dire, la Bible va le dire. Il vous rendra suffisamment, quoi? Juste laissez ça. Prends sa place dans ton cœur. Dieu vous rendra suffisamment. Dieu veut que vous soyez riche. Qu'est-ce que je veux dire par cela? Est-ce que j'ai dit que Dieu veut que vous soyez millionnaire? Je n'ai pas dit ça. C'est ça le problème. On dit riche et le monde a toute une définition de c'est quoi être riche, mais la Bible a aussi une définition de c'est quoi d'être riche. Être riche en Dieu, c'est premièrement d'être riche en bonnes œuvres, d'être riche en foi, d'être riche en amour, d'être riche dans notre rapport avec Dieu. Amen. Parce que même si je n'ai pas un sou sur ma personne, je peux être riche dans ces choses. Mais là, le contexte, c'est pas ces choses. Le contexte, c'est vraiment les besoins financiers ou matériels. Il dit, il vous rendra suffisamment riche en tout temps. Pourquoi? Pour que vous puissiez sans cesse, on dit sans cesse, vous montrer quoi? Généreux. Ainsi, beaucoup remercions Dieu pour les dons que nous leur transmettrons de leur part. Le contexte de ce verset. Paul est en train d'exhorter les Corinthiens à donner une offrande pour les pauvres. Les pauvres à Jérusalem, ils souffraient, ils avaient besoin d'aide. Donc, il a dit que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Celui qui sème beaucoup, récoltera beaucoup. Celui qui sème peu, récoltera peu. Mais, il a dit donner. Et si vous donnez pour les pauvres, Dieu va vous combler. Et vous serez suffisamment riches pour pouvoir constamment, sans cesse, vous montrer généreux. Ça, c'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Encore, on ne parle pas d'un message tordu de prospérité ici. Il y a des personnes qui ont tordu les messages de la prospérité, qui ont dit que, tout ce que Dieu veut, c'est vous donner encore des millions et des millions et juste ramasser des affaires pour vous-même, pour votre propre plaisir. Dieu n'est pas contre l'idée que vous ayez des belles choses, mais il faut que ces choses vous aident. Et le but numéro un, c'est que vous soyez capable d'aider les autres. Amen. Et c'est bien important. Et ça, c'est, pour moi, je crois que c'est une bonne nouvelle. Si vous avez de la misère aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Dieu est un Dieu d'abondance, il veut vous délivrer de la malédiction, de la pauvreté, et le désir de son cœur, c'est de pouvoir avoir tous vos besoins. Mais on va regarder un autre point. Il y a un lieu où Dieu envoie toujours sa provision. Avez-vous remarqué dans notre texte que Abraham donna à ce lieu le nom Jéhovah Jiré? C'est-à-dire que si Dieu est si bon, si Dieu veut pourvoir tous mes besoins, pourquoi est-ce que tout le monde ne reçoit pas les besoins? Moi, je vais vous proposer quelque chose aujourd'hui. Souvent, quand nous ne recevons pas la bénédiction, la provision de Dieu, c'est parce que nous ne sommes pas à la bonne place. Nous ne sommes pas rendus au lieu où Dieu envoie la bénédiction. Ce n'est pas toujours le cas, mais des fois. Et c'est aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle. Je vais vous montrer même comment vous rendre à ce lieu. Ça vous intéresse? Parce que si Dieu a dit, exemple, je veux que tu ailles là, il a dit à Abraham, je veux que tu ailles dans une certaine montagne. C'était sur cette montagne-là que Dieu a placé l'agneau, n'est-ce pas? Si Abraham aurait dit, mais j'aimerais mieux aller dans une autre direction, les montagnes, c'est moins haute, c'est pas, ça serait moins pénible pour monter au sommet, il aurait peut-être manqué la provision de Dieu. Peut-être, pas peut-être, mais sûrement. Vous êtes d'accord? Regarde, il y a d'autres personnes dans la Bible où on a vu la même chose. Le prophète Élie, regarde bien, en 3:17-2. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Donc, tu vois, Dieu lui a envoyé à une place spécifique, n'est-ce pas? Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de se nourrir où? Là. Souligne cela. C'est déjà souligné dans vos notes, hein? Je t'ai aidé, je t'ai donné un coup de main ce matin. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Il alla s'établir près du torrent de Kérit, et qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. Livraison à domicile, c'est pas pire. Hein? C'était pas un petit auto de Saint-Hubert qui arrive, mais ça fait l'affaire quand même. C'est les oiseaux qui ont amené la viande. C'est les oiseaux qui ont amené le pain. Et qu'est-ce que je veux dire là? C'est que, savez-vous quoi? Des fois, on pense, oh, j'ai besoin de plus d'argent. Non, pas forcément. Peut-être Dieu va vous donner plus d'argent. Mais c'est pas plus d'argent dont vous avez besoin. Vous avez besoin d'être connecté avec Dieu. Et là où le Seigneur veut que vous soyez, faisant qu'est-ce qu'il veut que vous faites, et là, la provision va être là. Ça se peut que vous aurez dans une... Vous serez dans une situation où l'argent ne vaut plus rien. Je m'en souviens, j'aime l'histoire, pendant la guerre de sécession aux États-Unis, dans le sud, au moment donné, le pays était prêt à s'écrouler, et juste pour acheter un pain, il fallait presque une brouette pleine d'argent, juste pour avoir assez d'argent pour un pain. L'argent ne valait pas grand-chose. Mais Dieu est notre source, l'argent n'est pas notre source. Et Dieu, si nécessaire, il va vous nourrir avec un poulet. Ou poutine, poulet, l'un ou l'autre. Amen. Mais regarde bien. Puis, au moment donné, le ruisseau a séché. Et Dieu a dit, maintenant, lève, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Tu m'en dis là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il fallait qu'il se rende à la bonne place. Parce que Dieu a dit, c'est là, tout le monde dit, c'est là. C'est là où j'ai ordonné que la femme prend soin de toi, la veuve te nourrit. Puis il y a une autre chose, juste au cas où que vous pensez que le lieu dont on parle, c'est un lieu géographique. Pas forcément. Dans ces cas-là, oui, Dieu a dit, va dans une telle place, géographiquement parlant. Mais qu'est-ce que je veux vous montrer aujourd'hui, c'est que le lieu qui s'appelle là, c'est pas forcément géographiquement parlant. C'est un lieu d'obéissance, c'est un lieu de foi, et c'est un lieu de sacrifice. C'était ça le cas avec Abraham, n'est-ce pas? Il fallait obéir à Dieu, il fallait avoir confiance en Dieu, et il fallait qu'il fasse des sacrifices. Et là, il a eu la provision de Dieu. Et si nous voulons avoir la provision de Dieu, il faut que nous nous rendions à ce lieu d'obéissance, de foi et de sacrifice. Il faut trouver la place qui s'appelle là. Amen. Regarde, juste pour montrer encore. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Est-ce que vous êtes d'accord, c'est bon pour les frères de demeurer ensemble? Pas de chicane, on est dans l'amour, dans la joie, dans l'unité. Pourquoi? C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est what, quoi? C'est là, tout le monde dit, c'est là. C'est là que l'Éternel envoie, quoi? Moi, je veux être là où le Seigneur envoie les bénédictions. Si les bénédictions tombent là-bas, je ne veux pas me trouver ici. Si c'est là, je me rends là. Mais encore, ce n'est pas géographiquement parlant qu'il est agréable pour les frères de demeurer ensemble. Si on est dans un bon état spirituel, si notre cœur est à la bonne place, il faut que votre cœur, votre corps peut être à la bonne place, mais votre cœur n'est pas là. Regarde quelqu'un a dit, il faut que vous soyez là. Regarde quelqu'un d'autre et dit, trouvez le lieu qui s'appelle là. Tu sais, on a eu beaucoup de bonnes choses au début de la réunion. On a pris un peu plus de temps, donc je vais prendre juste quand même quelques minutes. Je ne vais pas prendre longtemps. Est-ce que vous voulez quand même savoir quelles sont les 10 étapes pour trouver le lieu qui s'appelle là? Quelques-uns, je viens de remarquer, grâce à l'ordinateur, qu'ils ont 11 à 20, mais c'est supposé d'être 1 à 10. Comment trouver le lieu qui s'appelle là? Pensons une minute à Abraham. On va juste prendre Abraham, c'est lui notre exemple aujourd'hui. Numéro 1, comprenez pourquoi Dieu veut vous bénir. Abraham a compris des choses. Dieu lui a dit qu'en toi, toutes les nations de la terre seront bénies. Ce n'est pas une chose égoïste de vouloir être béni. Regarde bien ce qu'il a dit en Genèse 12, 2. « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai. » Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être béni ce matin? « Je rendrai ton nom grand et tu seras une quoi? » Une source de bénédiction. Dieu veut faire de vous une source de bénédiction. Ça, c'est le plan de Dieu pour nous. Il veut faire de nous une source de bénédiction. Et c'est pourquoi, vous savez pourquoi, juste cette semaine, au gymnase, je marchais sur le tapis roulant et puis il y a des petites télévisions. Et c'est pas une émission que je regarde. Je pense que j'ai vu 5 minutes dans le passé. Mais là, j'ai vu l'émission L'avocat du diable. Est-ce que vous avez des gens qui savent c'est quoi? Et savez-vous la question qui se posait cette journée-là au public? C'était deux Québécois qui parlaient et disaient « Pourquoi? » Est-ce que quelqu'un l'a vu cette semaine? Savez-vous une des questions? Pourquoi est-ce que nous dénigrons les riches ici au Québec? Et là, c'était quelque chose parce que il y a personne qui appelait, qui parlait, et le monsieur, ok, qui était là, qui était un érudit, qui comprend vraiment la société québécoise, il disait que nous ici au Québec, nous avons un problème, et le problème est très 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 profond. C'est qu'on n'aime pas ça quand les personnes sont bénies autour de nous. Je dis, wow, qu'est-ce qui se passe? Il y a même quelqu'un qui a appelé un monsieur qui a dit, mais tu sais quoi, moi, pendant des années, j'ai travaillé comme concierge dans un bloc d'appartements à Montréal. On n'avait pas un gros salaire, mais mon chum qui travaillait avec moi, qui était mon partenaire, il a toujours eu un rêve de un jour, il a épargné, un jour, il allait se payer la traite et acheter un Cadillac Flambant neuf. Mais savez-vous quoi? La journée qu'il a acheté, le propriétaire du bâtiment a dit, c'est à qui cette auto-là? Et quand il a dit, oh, c'était à moi, le gars a été viré. Tu n'as pas le droit d'avoir un Cadillac. Tu es viré. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Laisse-moi vous dire juste une chose. Si nous allons être bénis, et je ne parle pas des Cadillacs, là. Moi, je ne veux même pas un Cadillac. Ça ne me tente pas. C'est pas mon style. Du tout. C'est pas bien non plus pour 5 enfants et une famille. Vraiment, une camionnette, 8 passagers, on est bien. Mais le point que je veux faire, c'est que, en quelque part, nous bloquons les bénédictions de Dieu. Parce que si nous dénigrons les bénédictions chez les autres, vous n'êtes pas en position d'être béni vous-même. Si vous êtes jaloux à chaque fois que quelqu'un ait quelque chose, vous n'allez jamais pouvoir recevoir quelque chose. Parce que vous venez de dire, oh, c'est pas correct, c'est pas juste, hein? Regarde toutes les personnes qui ont besoin d'allemand. Ça, c'est vrai, mais laisse-moi vous dire une chose. Encore, si les gens dans notre région ne prospèrent pas, si les commerces ne sont pas prospères, si les gens ne sont pas capables d'embaucher, d'engager, d'employer des personnes, l'économie va pas bien. Et si l'économie ne va pas bien, on va avoir les rues comme on a vu en Haïti, à Drummondville. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire là pour aider les gens? Donc, recevons les richesses, recevons les bénédictions, mais en sachant pourquoi. Dieu veut nous bénir, il veut qu'on ait un bon standard de vie, mais on veut bénir les autres autour de nous. Vous me suivez ce matin? Numéro 2, assurez-vous que vous aimez Dieu plus que toute autre chose. Dieu a dit à Abraham, offrez votre fils, votre unique, celui que vous aimez, celui que t'aimes, il a dit. Est-ce que c'est vrai qu'Abraham a aimé Isaac? Oh, tu peux y croire. Mais Dieu a dit, est-ce que tu aimes Isaac plus que tu m'aimes? Posez-vous la question, est-ce que tu aimes ta maison plus que tu aimes Dieu? Est-ce que tu aimes ta voiture plus que tu aimes Dieu? Est-ce que tu aimes ton portefeuille, ton compte de la banque plus que tu aimes Dieu? Aimes-tu ton loisir plus que tu aimes Dieu? Dieu va souvent nous donner les tests, il va nous demander. Mais Seigneur, c'est toi qui me l'as donné? Oui, mais j'aimerais l'avoir. Hein? Abraham n'a pas fait, hein? Mais Seigneur, c'est lui, l'enfant de la promesse. Il a dit, ok, Seigneur, oui, chef, si tu l'as dit, j'y fais. J'y fais. J'y vais. Et les autres choses qui vont avec. Je m'excuse pour le français ce matin. Numéro 3, obéissez à ses instructions sans hésiter. Le lieu qui s'appelle là, c'est un lieu d'obéissance. Et avez-vous remarqué dans notre texte, en verset 3, Abraham se leva du bon matin. Il a obéi tout de suite. Il se leva de bon matin pour aller faire ce que Dieu lui a demandé de faire. Et parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Numéro 4. Soyez diligents dans votre travail. Il y a beaucoup de personnes qui veulent être bénies, qui veulent prospérer, mais ils ne veulent pas travailler et ça ne marche pas. Il y a des cas où les personnes ne peuvent pas travailler, ça c'est différent. Quelqu'un qui est incapable de travailler pour X raisons, ça c'est quelque chose. Mais quelqu'un qui est en forme, qui est en santé, mais qui est juste paresseux, qui ne veut pas travailler, la Bible est claire là-dessus. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents enrichit. Qu'est-ce qu'on a vu avec Abraham? Dieu lui a donné les instructions, il se lève de bon matin, et il a fendu du bois, n'est-ce pas? Il a travaillé. C'est du boulot, n'est-ce pas, messieurs? Donc, on voit qu'il a fait un travail et Dieu a béni cela et Dieu il était capable de se rendre à la place qui s'appelle là. Tout le monde regarde quelqu'un et dit, je m'en vais là. J'y vais. Numéro 5, soyez fidèles au plan de Dieu. Savez-vous quoi? Il a eu 3 jours de route à faire. 3 jours, il a marché pendant 3 jours. Pensez-vous que la pensée n'est pas venue dans sa tête? Ah, est-ce que tu veux vraiment y aller jusqu'au bout? Oh, tu as encore du temps, tu peux tourner. Oublie ça. Peut-être l'ennemi a mis les doutes dans sa tête, mais pendant 3 jours, il a marché avec fidélité jusqu'à là. Et c'est là où le Seigneur a envoyé la provision. Et savez-vous quoi? La fidélité, c'est une clé pour la prospérité. Soyez fidèles au travail. Soyez fidèles à l'Église. Soyez fidèles dans les dîmes et les offrandes. Soyez fidèles dans tout ce que Dieu vous demande à faire. Pourquoi? Un homme fidèle est comblé de bénédictions. Numéro 6. Ayez foi que Dieu vous redonnera ce que vous lui offrez. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Regardez, dans le verset, Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusqu'à là, pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Pensez, Abraham, il amène son fils pour le sacrifier. Il dit à ses serviteurs, « Restez ici, le garçon et moi, nous allons monter jusque-là. » Mais nous allons revenir. Il avait confiance que même s'il avait besoin d'offrir son fils à Dieu, que Dieu pourrait lui redonner son fils. Et c'est ça que la Bible dit, je l'ai mis dans vos notes en Hébreux chapitre 11, que Abraham, il a cru dans un sens à la résurrection. Il a dit que Dieu est capable, même s'il n'a ça, si j'ai besoin de sacrifier mon fils, je sais que c'est l'enfant de promesse, c'est à travers lui que le monde va être sauvé, que les nations de la terre vont être bénies. Alors même si j'ai besoin de le sacrifier, Dieu va le ressusciter. Donc quand vous recevez les bénédictions et Dieu vous demande, maintenant partage ces bénédictions avec quelqu'un d'autre. Partage, donne aux autres, dis, « Oh, mais Seigneur, je priais depuis longtemps pour avoir cette bénédiction. » Oui. Mais donne-le, je vais le multiplier et puis je vais le redonner. Ça va être plus gros quand ça revient à toi. Gloire à Dieu! C'est là le lieu qui s'appelle là. C'est une place où on a foi que Dieu va redonner ce qu'on lui offre. Numéro 7, développer une mentalité de prospérité. Abraham a dit à son fils, en verset 8, quand ils marchaient ensemble, Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. » Dans le cœur d'Abraham, Abraham savait que Dieu est grand, puissant et c'est un Dieu d'abondance. Il n'avait aucun doute que Dieu allait pourvoir. Et comme j'ai dit, ici, dans notre église, dans nos vies, dans cette province, nous avons besoin de développer, pas une mentalité de pauvreté, mais une mentalité d'abondance. Qu'il y a assez pour tout le monde. Qu'est-ce que ça vous dérange? C'est comme le gars, l'avocat du diable, le gars disait, l'animateur d'une mission, il a dit, « Mais en quoi est-ce que ça vous dérange si votre voisin chauffe une belle auto? En quoi est-ce que ça vous dérange? » Il disait ça plusieurs fois. « En quoi est-ce que ça vous dérange? » Parce qu'est-ce qu'on a l'impression que, « Oui, mais si lui, il conduit cela, je ne serais pas capable d'avoir de quoi? » Non, il y a assez pour tout le monde. On pense pas, ça regarde pas comme ça, mais en réalité, il n'y a pas de limite avec Dieu. Et mon Dieu pourvoira tous nos besoins selon sa richesse avec gloire. Donc, si vous voyez quelqu'un qui est béni, réjouissez-vous avec lui. Et dit, c'est à mon tour prochain, Seigneur. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. La prospérité est directement liée à la façon que vous pensez. Si vous pensez pauvreté, vous allez vivre pauvreté. Si vous pensez je suis né pour un petit pain, vous allez toujours avoir un petit pain. Mais si vous croyez que Dieu veut faire de vous une source de bénédiction, vous allez pouvoir être béni. Moi, j'ai grandi avec une certaine mentalité de pauvreté. Quand ma famille monoparentale, ma mère essaie de rejoindre les deux bouts, je sais c'est quoi. Maman, est-ce que je peux avoir un bonbon? On ne peut pas se permettre d'avoir un bonbon. Est-ce qu'on peut acheter de la liqueur? Désolé, mon cher, on ne peut pas se permettre d'acheter de la liqueur. C'est trop cher. On boit de l'eau, des fois du jus ou du lait. C'est ça. Moi, j'ai grandi comme ça. Pour moi, quelqu'un qui allait prendre un avion, c'est les riches qui prennent les avions. J'avais cette mentalité. Est-ce qu'il y a des gens qui savent de quoi je parle ou est-ce que... Hein? Mais laisse-moi vous dire, le Seigneur a changé ma façon de voir les choses. Et heureusement, parce que on peut aider beaucoup plus des gens si on a cette mentalité que non, Dieu, si Dieu veut m'envoyer en voyage missionnaire, je peux le faire. Je peux prendre l'avion comme les autres. Amen. Si Dieu veut, il peut me bénir avec toutes les choses dont j'ai besoin, avec un superflu pour participer à du bonheur. Donc, il faut avoir cette mentalité de prospérité, que Dieu est bon, il est grand et rien n'est impossible à lui. Amen. Alléluia. Numéro 8, ne vous inquiétez pas. Je pense à Abraham et je pense vraiment à Isaac. Papa, on a le couteau. On a le bois, on a le feu, on n'a pas d'agneau. N'inquiétez-vous pas. Facile pour toi de dire, papa. Non, il ne savait pas. Mais vois-tu, encore, c'est le lieu qui s'appelle là, c'est une place de sécurité où on sait, pas besoin de s'inquiéter. Si Dieu prend soin des oiseaux, si Dieu prend soin des lits, des champs, il prendra soin de moi aussi. Numéro 9, offrez à Dieu votre meilleur avec un cœur généreux. Je vois cela, Abraham qui place son fils sur l'autel, qui prend le couteau, il est prêt dans son cœur à donner à Dieu la chose la plus précieuse qu'il a, le fils de la promesse. Et laisse-moi vous dire que quand c'est le temps pour nous, il y a trop de personnes qui, quand ils viennent à l'église ou dans leur vie, ils vont dépenser pour tout, pour eux-mêmes, et ils vont donner un petit pourboire à Dieu. Est-ce que je peux vous parler comme la réalité? On donne, que ce soit notre temps, on va passer des heures et des heures et des heures pour les sports et pour les choses, mais Dieu veut juste un peu de temps le matin où tu peux prier et lire ta Bible, mais on va donner juste 5 minutes, c'est correct, Seigneur? Même chose, nos temps, nos talents, notre temps, notre trésor. Juste pensez à ça. Ouh, c'est silencieux. Honore l'Éternel avec tes biens, avec les prémices de tout ton revenu. Avec les quoi? Les prémices. Moi, je crois que le lieu qui s'appelle là, c'est le lieu où on donne à Dieu avant de donner à autre chose. La première chose qu'on fait, et moi, j'ai vu, heureusement, maman, merci Seigneur pour ma mère, à l'âge de 9 ans, quand j'étais né de nouveau et ma mère a donné sa vie au Seigneur, j'avais 9 ans. À partir de ce moment, elle m'a enseigné. Tu sais quoi? Il faut savoir que Dieu est notre source. Et on avait de la difficulté des fois, comme j'ai expliqué. Il dit, mais tu sais quoi, mon fils? Si jamais tu reçois quoi que ce soit, tu devrais toujours honorer Dieu avec les prémices. Si tu reçois 1 $, donne à Dieu 10 cents. Et j'ai toujours fait ça depuis l'âge de 9 ans. Et je suis béni, gloire à Dieu. Je n'ai pas dit que je n'ai pas eu des moments difficiles, mais Dieu a été toujours là, à ce lieu qui s'appelle là. Amen. Honore l'Éternel avec tes biens, avec les prémices de ton revenu, alors tes greniers seront remplis de quoi? D'abondance. Et tes cuivres gorgeront de moût. Une personne généreuse sera comblée de biens en retour. Celui qui donne à boire sera désaltéré. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Et finalement, numéro 10. Ayez une attitude de gratitude. Ayez une attitude de gratitude. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Savez-vous, c'est quoi la différence entre quelqu'un qui est béni et quelqu'un qui est gâté pourri? Savez-vous la différence? En cœur reconnaissant. Quelqu'un qui est béni est capable de reconnaître avec humilité, Seigneur, tout ce que j'ai, ça vient de toi. Et en fait, Seigneur, à n'importe quelle seconde, à n'importe quel moment, tu veux que je le redonne, tu veux que je donne tout, comme il a demandé au jeune homme riche, maintenant va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Et c'est parce qu'il voulait que le jeune homme soit pauvre? Non, parce que si vous donnez aux pauvres, vous prêtez à l'Éternel. Mais il faut qu'on soit prêt. Il ne faut pas être attaché aux choses. Il faut être attaché à Dieu. Mais ça, c'est un cœur humble et reconnaissant. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Et on ne méprise pas les jours des petits commencements. Si on a... J'ai entendu une autre émission ici au Québec. Il parlait du grand... c'est quoi, le grignot... Comment ça s'appelle? Grignolet, c'est ça. Il disait... Les gens qui disent, mais j'ai rien à donner. Et le gars dit, mais si tu as déjeuné ce matin, tu as quelque chose à donner. Parce que beaucoup de personnes-là, ils n'ont même pas la capacité de déjeuner. Donc, même si c'est petit, dès qu'on est béni avec les moindres choses, on devrait dire, merci Seigneur, je suis reconnaissant. Et là, on se rend au lieu qui s'appelle là. Jean-Charles, j'ai pris un bon temps ce matin. Le Seigneur a guéri les corps ce matin. N'est-ce pas bon? Et moi, je crois que le Seigneur est en train de guérir les âmes ce matin. Je crois qu'il est en train de... Si pour les prochaines quelques minutes, je ne vais pas prendre longtemps ce matin, mais quand même, j'ai promis, j'ai fait une promesse à Dieu, et je vous ai fait une promesse aussi, que ce matin, et à tous les dimanches matins, je vais donner l'occasion aux gens de donner leur vie au Seigneur Jésus. Laisse-moi vous dire, regardez-moi, Dieu... Et c'est lui qui pourvoit tous nos besoins. Il a pourvu l'agneau de Dieu qui est Jésus. Et ce matin, je veux juste être sûr que tout le monde est en règle avec Dieu avant de partir. Je veux que tout le monde sache sans aucun doute que leur cœur est correct et en règle avec Dieu. Donc si c'est possible, juste on bouge pas juste pour les prochaines cinq minutes peut-être. Mais ce que je veux que vous sachiez, peut-être vous dites, mais qu'est-ce que cela veut dire être en règle avec Dieu? La Bible dit ceci. Que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes tous venus au monde dans le péché et nous sommes séparés d'avec Dieu. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. En fait, la Bible est claire que nous avons tellement besoin de Jésus que si nous n'avons pas Jésus dans notre cœur, dans notre vie, que nous allons passer l'éternité, comme on dit l'éternité, à l'enfer. Et ce n'est pas parce que Dieu veut qu'on soit en enfer. Dieu a créé l'enfer pour Satan et ses anges. Et quand l'homme a désobéi à Dieu, il est devenu la propriété de Satan. Quand Satan va être jeté dans les temps de feu, tous ceux et celles qui ne connaissent pas Jésus vont aller avec lui. Mais aujourd'hui, on parle de le lieu qui s'appelle là. Mais on ne peut pas être là sans être en Jésus, premièrement. Et juste, posez-vous la question. Si vous quittez l'église aujourd'hui et votre cœur arrête de battre, et vous tombez mort, est-ce que vous savez sans aucun doute que vous allez au ciel? Sans aucun doute. Si vous avez le moindre doute, aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle, vous pouvez partir d'ici sachant que vous êtes sauvé, que votre cœur est en règle avec Dieu. Jésus a dit, il faut naître de nouveau pour voir le royaume de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le cœur qui est à moi, qui est mort à cause du péché, doit reprendre vie quand Jésus entre dans ma vie. Être sauvé, c'est de donner tout votre cœur, toute votre vie à Jésus. D'accepter la réalité que nous sommes tous les pécheurs et sans Jésus, nous sommes tous destinés pour l'enfer. Il n'y a personne ici qui peut se sauver soi-même. Personne. Mais Jésus a payé un prix. Il a versé son sang. Il était enterré et le troisième jour ressuscité. Et regardez-moi droit dans les yeux. Voici qu'est-ce que Jésus a dit. Que si tu me confesses devant les hommes, je te confesserai devant mon Père. Mais il a dit ceci également. Si tu me renies devant les hommes, je te renierai devant mon Père. Donc aujourd'hui, avant que vous quittiez, j'aimerais juste que vous pensiez, vous dites, ouais, je pense que j'irai au ciel, mais savez-vous quoi? Si je reprends ma Bible, je trouve nulle part dans la Bible que c'est marqué que quelqu'un qui pense aller au ciel va aller au ciel. Tu dis, moi, je crois en Dieu depuis toujours. J'ai toujours cru en Dieu. La Bible ne dit, en fait, la Bible dit ceci. Même le diable croit en Dieu, mais il n'est pas sauvé. Croire en Dieu n'est pas assez. Penser que tu vas aller au ciel. Peut-être vous dites, mais moi, je prie à tous les soirs. La Bible ne dit pas que la prière peut vous sauver. La seule chose qui peut vous sauver, c'est le sacrifice de Jésus que chacun de nous avons besoin de recevoir. Si je voulais offrir un cadeau aujourd'hui, à Gaétan, je dirais, Gaétan, j'ai acheté cette Bible, j'ai mis ton nom là-dessus, c'est à toi. Qu'est-ce qu'il a besoin de faire? Il a besoin d'étendre la main et la recevoir. Aujourd'hui, bonne nouvelle, Jésus est mort, il est ressuscité, il étend la main, il dit, si vous voulez, vous pouvez être sauvé, même aujourd'hui, ce matin. Je vous offre la vie éternelle. Et maintenant, c'est à vous de décider. Non, Jésus, non, merci, je ne veux pas. Ou oui, Jésus, je veux être sauvé. Je ne vous invite pas à devenir membre de cette Église. Ce n'est pas une question de changer de religion, c'est une question de changer de royaume, dans le sens que tous ceux qui ne connaissent pas Jésus sont dans le royaume de Satan, même sans le savoir. Tous ceux qui ne sont pas nés de nouveau sont destinés à l'enfer. Mais Dieu veut qu'on soit dans son royaume, dans sa famille. Et c'est un don gratuit qu'il nous a offert. Donc encore, dans une minute, je vais taper ma main. Et si vous êtes là et vous dites dans votre cœur, « Pasteur, je crois que j'ai besoin de donner ma vie à Jésus. Je n'ai pas cette assurance. Je pensais que j'étais sauvé, mais je ne suis pas sûr. Je crois en Dieu, je lis la Bible même, je prie, je vais à l'église, mais ne pensez pas à ce que les autres vont penser. Mais on va juste fixer les yeux sur Jésus ce matin. » Et on va lui donner la chance d'entrer dans votre cœur. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Vous ne savez pas si vous allez avoir une autre occasion. Comme je dis, si vous mourrez, est-ce que vous êtes prêts? Donc maintenant, je vais compter à trois. Quand je tape ma main, si vous êtes là et vous avez besoin de donner votre vie à Jésus, juste sans hésiter, mettez votre main. Comme Abraham, sans hésiter, il a obéi à Dieu. Sans hésiter. Si vous avez dans votre cœur la conviction que vous avez besoin de donner votre vie à Jésus, vous savez que vous avez besoin de Jésus. Je vais taper ma main, lever la main tout de suite, et nous allons prier pour vous. Vous allez pouvoir partir d'ici avec cette assurance que Jésus est votre sauveur, que vos péchés sont pardonnés. Il va laver tous vos péchés du passé. Vous allez partir d'ici flambant neuf. Donc, Père, je prie maintenant au nom de Jésus que chaque personne, et tu peux me regarder même, parce que dans le fond, on n'a pas honte de Jésus. Jésus a dit, si tu as honte de moi, dans cette génération, j'aurai honte de toi. Qu'est-ce qui est important aujourd'hui, c'est de dire, oui, je veux confesser Jésus. Mais Seigneur, je prie que chaque homme, chaque femme, chaque enfant ici présent puisse répondre, Seigneur, ceux et celles qui ont besoin de toi. Donc, si vous avez besoin de donner votre vie à Jésus ce matin, 1, 2, 3. Il y a une personne ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre? N'hésitez pas. Ça vaut la peine juste pour une personne. La Bible dit que si un pécheur se répand, tous les anges des cieux se réjouissent, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre, par exemple? Juste venez ici en avant pour une minute. On va prier avec vous. Oui, je vais prier avec vous. On a une Bible qu'on veut vous donner gratuitement. C'est un cadeau. Donc, on va prier avec vous. Soyez pas gênés. Ça, c'est une occasion pour toi de dire aux gens, j'ai pas honte de Jésus. Donc, Caroline est là. Est-ce que tu peux chercher la... Est-ce que tu as la... Ou c'est Ginette qui va. Peux-tu venir avec moi? J'aimerais juste que te présenter à Ginette. Oh, tu veux pas? Oh, OK. Mais je veux pas que tu sois gênée, c'est sûr. Mais qu'est-ce que je veux savoir? Ce matin, quand même, est-ce que tu veux vraiment donner ton cœur à Jésus? Amen. Et tu es prêt à dire devant tout le monde ici que tu veux accepter Jésus comme sauveur et Seigneur. Je comprends, des fois, il y a des personnes qui sont plus gênées, c'est pas grave. Mais sinon, tu peux même venir avec quelqu'un que tu connais. On a un bon cadeau. Et puis, on va prier avec toi. On a une femme ici. Alléluia. On va se lever debout, tout le monde. Alléluia. Donc, si tu veux venir avec... c'est qui est là? Ginette va la rejoindre, c'est parfait. On a juste un cadeau à t'offrir. Seigneur, est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour cette femme qui a donné sa vie au Seigneur Jésus ce matin? C'est bon. C'est merveilleux. Vois-tu, elle n'avait pas honte de dire devant tout le monde que je veux accepter Jésus. Je veux donner mon cœur à lui, ma vie à lui. N'est-ce pas merveilleux? C'est super. Et savez-vous quoi? Jéhovah Jireh, il voit et pourvoit. Méditez ces choses, marchons dans la lumière de ces choses.
Enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.